VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du mercredi 22 avril 2015. À la une ce soir.
République centrafricaine, le gouvernement annonce le report du forum intercentrafricain de réconciliation nationale.
Sénégal, le président Macky Sall appelle à la fin de la grève des enseignants.
Au Niger, l'État annonce la fermeture temporaire de toutes les écoles de Niamey.
Aujourd'hui, si le gouvernement décide de fermer les établissements scolaires, c'est pour permettre d'abord de prévenir et de préparer aussi une riposte.
Manu Agali, ministre nigérien de la Santé.
Déploiement de l'armée sud-africaine pour lutter contre les violences xénophobes.
Au Yémen, les rebelles chiites demandent l'arrêt total des frappes aériennes alors que les protagonistes envisagent la tenue de négociations de paix.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Togo, les forces de sécurité ont voté par anticipation pour la présidentielle prévue samedi pour le grand public, Idriss Fall.
Quelques 20 000 militaires, policiers, gendarmes, douaniers et pompiers étaient appelés aux urnes dans 214 bureaux de vote. Pour le colonel Kossi Akpovi, commandant de la force de sécurité de l'élection présidentielle, ce vote anticipé aidera à mieux gérer la sécurisation des bureaux de vote samedi. Dans ce scrutin à un seul tour, le président sortant Faure Gnassingbé fait face à 4 candidats, dont Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Dans un communiqué, Amnesty International a dénoncé les agissements de l'armée, l'accusant d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants le 25 mars à Gléhi, au nord de Lomé. Les manifestations prévues par la synergie des travailleurs du Togo, une centrale syndicale, ont été interdites. Ces 20 dernières années, presque toutes les proclamations de résultats d'élections togolaises ont été suivies de violences meurtrières.
En République centrafricaine, plus de 40 musulmans, principalement des femmes et des filles, sont retenus en captivité par les anti-Balaka, a déclaré Human Rights Watch ce mercredi, appelant la force de paix onusienne et le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour les libérer. Le Conseil de sécurité de l'ONU a mandaté la MINUSCA pour lutter contre les violences sexuelles, notamment en aidant à traduire en justice les auteurs de ces violences, rappelle l'organisation. Alors que le mandat de la MINUSCA doit être renouvelé le 28 avril, les dispositions visant à combattre les violences sexuelles devraient demeurer fortes, souligne Human Rights Watch.
Reporters sans frontières se félicite de l'arrestation d'un suspect en rapport avec le meurtre du journaliste Soleil Balanga, tué le 16 avril à Moncoto dans la province de l'Équateur en RDC. Ce journaliste de la radio communautaire Moncoto avait été attaqué alors qu'il revenait de la station. RSF réclame une enquête approfondie, déclare Cléa Kansriber, responsable du bureau Afrique de l'ONG, au micro de Camille Gros-Didier.
Donc la personne qui est responsable de cette agression est le fils du directeur de l'hôpital local. Et le journaliste avait annoncé à la radio un changement, une mutation, un changement de direction de l'hôpital qui avait été décidé par les autorités du lieu. Et voilà, et l'annonce de cette nouvelle aurait déplu apparemment au fils de ce directeur d'hôpital qui a décidé de prendre les choses en main de façon horriblement violente.
A-t-il été interpellé ?
Alors effectivement, oui, le présumé coupable a été arrêté et interpellé. On se félicite de savoir que le responsable de l'acte est en prison, mais on s'inquiète un peu quand même de voir que non seulement lui, mais en plus au total 5 personnes auraient été arrêtées, ce qui pourrait dénoter un peu un travers de la justice congolaise qui est d'arrêter massivement un tas de personnes pour montrer que quelque chose est fait, mais pas forcément en garantissant qu'une enquête approfondie et ciblée est menée.
Cléa Kansriber de Reporters sans frontières.
En Afrique du Sud, l'armée a été déployée contre les violences xénophobes. Ailleurs sur le continent, le Nigeria a officiellement protesté contre ces violences et appelé le gouvernement sud-africain à punir les coupables et dédommager les victimes. Tout en déplorant cette situation, le doyen du corps diplomatique à Pretoria, l'ambassadeur Benim Poko de la RDC, a appelé les autres pays africains à la compréhension.
Le Congo fait partie de la région de SADC et dans le cadre du programme de l'intégration régionale, nous devons tous nous accepter et vivre en paix. Nous avons un programme qui va s'exécuter à travers une courte période pour intégrer la région de la SADC. Et pour cela, nous avons besoin de la paix. Et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud va retarder le programme d'intégration. Va aussi peut-être mettre des doutes sur les investissements, sur le programme de migration, ainsi de suite. Donc, il est important qu'on puisse résoudre ce problème le plus rapidement possible. D'abord, si la situation se calme et que l'Afrique du Sud, par la suite, envoie des émissaires, surtout dans les pays dont les ressortissants ont été des victimes de cette attaque, je crois que le continent africain va comprendre. Et ils vont comprendre que d'accord, ça est arrivé, on est en train de prendre des mesures, et ils vont se poser la question de savoir comment nous, en tant que pays africain, on peut aider l'Afrique du Sud à mettre fin à cette situation.
Bénin Mpoko, ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud.
Au Sénégal, le président Macky Sall a demandé aux enseignants du primaire et du secondaire d'arrêter leur mouvement de grève. Ils sont en grève cyclique depuis décembre pour exiger le respect d'accords signés avec l'État. Bagassi Koura.
Selon l'agence de presse sénégalaise citée par l'AFP, le président Sall affirme compter sur un sursaut patriotique des enseignants pour éviter que l'année scolaire 2014-2015 soit considérée comme nulle pour les élèves dans le public. Les syndicats d'enseignants du primaire et du secondaire observent depuis fin décembre des arrêts de travail pendant plusieurs jours dans la semaine pour exiger le respect d'accords signés avec le gouvernement en février 2014. Ces accords sont notamment liés à l'intégration de certains corps comme les volontaires et les vacataires dans la fonction publique, la formation et les logements et des droits à des indemnités. Le chef de l'État a reconnu la légitimité des revendications des enseignants, mais il leur a rappelé qu'elles ne sont pas les seules à l'être, a indiqué le quotidien pro-gouvernemental Le Soleil. Le ministre chargé de l'éducation, Serigne Mbaye Thiam, a récemment menacé de couper les salaires des grévistes.
L'ONU se dit préoccupée par la disparition de 3 membres du PAM le 1er avril dans l'état du Haut-Nil au Soudan du Sud. 10 travailleurs humanitaires ont été tués dans la région en 16 mois.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Amnesty International a appelé l'Union européenne à fournir des efforts humanitaires pour mettre fin à la tragédie des naufrages de migrants en Méditerranée. Dans un rapport publié ce mercredi à Paris, l'organisation a exhorté les dirigeants européens lors de leur réunion demain à Bruxelles à autoriser immédiatement une opération humanitaire avec plus de navires, d'aéronefs et d'autres ressources pour patrouiller en Méditerranée et secourir des migrants lorsque leur vie est en danger.
Au Yémen, les rebelles chiites houthis se sont emparés d'une base de force du président Abd Rabbou Mansour Hadi à Taiz, où les combats se poursuivent, ainsi qu'à Aden dans le sud. Précision Lionel Gaïma.
La chute de cette base a été suivie d'un raid aérien de la coalition arabe dans le secteur. Hier, l'Arabie saoudite a déclaré la fin de la campagne aérienne qui, depuis un mois, visait à barrer la route aux rebelles appuyés par l'Iran. Mais, avait précisé Riyad hier, ce nouvel accent sur le soutien à une solution politique n'excluait pas des frappes pour empêcher les rebelles d'acquérir ou d'utiliser des armes de l'armée gouvernementale. Les Saoudiens ont également dit accorder la priorité à la reprise des pourparlers de paix parrainés par l'ONU. Ici à Washington, la Maison-Blanche s'est félicitée de la décision d'arrêter les bombardements et elle a appelé à une reprise rapide des négociations entre toutes les parties en présence au Yémen pour un processus de transition sans exclusive. Sa porte-parole, Jen Psaki, reconnaît cependant que l'instabilité continuait de prévaloir au Yémen et dans la région. Dans leur première réaction, les rebelles ont, eux, exigé l'arrêt total des raids aériens, la levée du blocus aérien et maritime, ainsi que la reprise du dialogue politique sous l'égide de l'ONU.
Bien sûr, on écoutait Michel Joseph en lieu et place de Lionel et Gaïma. On passe en Russie.
Oui, l'opposition s'organise en Russie. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a annoncé que 6 groupes et partis politiques, dont le mouvement Open Russia, dirigé par l'ex-oligarque Mikhail Khodorkovsky, ont rejoint la coalition démocratique. Premier objectif des élections locales en Sibérie, dans le nord-est et le sud de Moscou, en septembre prochain. Ces partis ont convenu de présenter une liste unie lors de ces scrutins. Avocat, blogueur charismatique Alexei Navalny, 38 ans, est notamment connu pour sa dénonciation de la corruption des élites en Russie, rappelle l'AFP.
Le chef de l'Église catholique sera à Cuba en septembre. Ce sera la troisième mission d'un souverain pontife au pays des Castro, après celle de Jean-Paul II et Benoît XVI. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la minute éco hein, ce soir avec Félix Yepassi Zembrou.
La Thaïlande a averti aujourd'hui qu'elle risquait de perdre près $1 milliard par an si l'Union européenne mettait en place des sanctions commerciales sur les produits de la mer, comme elle a menacé de le faire. La Commission européenne a donné 6 mois à la Thaïlande pour lutter contre la pêche illégale, alors que le pays, troisième exportateur mondial de produits de la mer, est mis en cause pour travail forcé à bord de sa flotte. L'industrie de la pêche, l'un des piliers de l'économie nationale, représente 40% des exportations de produits alimentaires du pays. Le royaume a la plus grosse industrie de la crevette au monde. Le syndicat national des employés du secteur de l'électricité du Nigeria a mis en garde le gouvernement contre la construction d'une centrale nucléaire, évoquant les risques liés à ce type d'installation. Selon une déclaration signée par le secrétaire général du dit syndicat, M. Joe Ajaero, et rendue publique mardi à Lagos, la structure fait part de son inquiétude étant donné que le pays n'a pas encore la capacité nécessaire pour faire face à des catastrophes nucléaires majeures. Les activités de la première édition du Forum de la diaspora ivoirienne prévue du 7 au 8 mai prochain ont été lancées hier à Abidjan. Le thème retenu, diaspora ivoirienne. Quels enjeux pour une Côte d'Ivoire en voie de l'émergence, avec la participation prévue de plus de 500 Ivoiriens de tous les continents. La diaspora ivoirienne est estimée à ce jour à environ 1 240 000 personnes à travers le monde entier, soit 5,4% de la population ivoirienne. Elle rapatrie annuellement vers le pays près de 209 milliards de francs CFA.
Merci Félix pour la Minute Éco.
Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Retour ce soir sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, ce soir, il y a d'autres matchs ce soir encore. Le retour du derby madrilène entre le Real et l'Atlético Madrid. Quant aux Français de Monaco, ils reçoivent la Juve de Turin. Hier soir, Chérubin, le FC Porto et le Barça se sont qualifiés pour les quarts de finale. Au Camp Nou de Barcelone, le Paris Saint-Germain a été battu 2-0, 2 buts du Brésilien Neymar. À l'aller, il faut dire, Paris avait perdu au Parc des Princes 3-1. Quant au Bayern, Chérubin, il a corrigé Porto par 6-1, même si ce score ne vaut pas ce que Haïti avait pris au Mondial. Hein.
Et Zinedine Zidane qui disait que le Paris Saint-Germain avait toutes ses chances. La NBA, bientôt en Afrique, a-t-on dit?
Voilà, la NBA fera incursion pour la première fois en Afrique le 1er août prochain. Ce sera à Johannesburg dans un match d'exhibition entre joueurs originaires du continent et du reste du monde. La rencontre mettra aux prises un Team Africa conduit par Lyolo Deng du Miami Heat, sélectionné 2 fois dans les All-Stars. Lui, il est né au Soudan du Sud. Et un Team World dont Chris Paul de Los Angeles Clippers, 8 fois All-Star, sera le capitaine.
Et toujours pour parler de basketball, cette fois-ci les playoffs, la phase finale du championnat nord-américain.
Oui, hier soir, les Boston Celtics ont perdu face à Cleveland 91-89 et Chérubin, LeBron James n'est pas encore fini.
Oui, en quatrième période, LeBron et l'un de ses coéquipiers ont pratiquement pris le dessus et ils ne pouvaient perdre ce match.
Voilà, comme on dit, un grand, c'est un grand. Et grâce à lui et ses 30 points, 9 rebonds et 7 passes, son équipe a donc gagné face aux Celtics de Boston 91-99. LeBron est donc désormais le septième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, passant devant Jerry West, champion olympique en 1960 et champion de NBA 72. C'est votre temps, Chérubin. Dallas s'incline face à Houston, 99-111. Et les Wizards de Washington ont vaincu les Toronto Raptors, 117-106.
Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorsil et Nathalie Barge en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Le gouvernement nigérien a décidé de fermer toutes les écoles de Niamey pour 5 jours pour une campagne de vaccination prévue à partir de demain, jeudi. La capitale nigérienne et d'autres villes du pays sont confrontées depuis quelques semaines à une épidémie de méningite qui a déjà fait plus de 80 décès. Le point dans un reportage de notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Depuis l'annonce de l'épidémie par les autorités sanitaires, les populations, à défaut d'une campagne de vaccination, se sont lancées dans la recherche du vaccin pour se prévenir. Mais le produit est cher, mais surtout rare sur le marché, comme le confirme ce pharmacien.
Au niveau de nos centrales d'achat, la disponibilité n'y est pas. Et nous, on ne peut que passer par les centrales d'achat pour commander les vaccins afin de mettre à disposition ces vaccins-là à nos clients. Parce que sur un sondage de 5 clients qui rentrent dans cette pharmacie, les 4 nous demandent le vaccin. Et très malheureusement, nous sommes très très peinés de ne pas mettre à leur disposition ce vaccin.
Comme dans de pareilles circonstances, des individus trouvent une occasion pour abuser de l'ignorance des populations. C'est ainsi qu'un vaccin pas du tout efficace est mis à la disposition des demandeurs à vil prix. Docteur Idi Iliassou est le responsable de l'Observatoire des droits de la santé du Niger.
S'il y a une vaccination de masse de façon officielle, ça ne peut être que dans les structures de santé. Or, à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin dans les structures de santé pour vacciner la cible. Mais il y a des vaccins qui sont vendus dans les pharmacies, dans les officines. Nous, on attire l'attention de ces gens qui donnent à ces pratiques. Non seulement tu ne peux pas acheter un vaccin à 55 000 ou à 124 000 dans une pharmacie et venir le vendre à 1 000 francs ou à 2 000. C'est ça la contradiction. Il faut faire attention, il faut être prudent.
La maladie fait des ravages, notamment dans la capitale Niamey. Les commandes de vaccins lancées par le gouvernement sont annoncées pour être là ce mercredi pour permettre une réussite de la campagne de vaccination qui doit débuter jeudi. Il a décidé de fermer toutes les écoles jusqu'au lundi prochain. Manu Agali est le ministre de la Santé.
Notre pays a connu beaucoup d'épidémies de méningite et maintenant il y a l'apparition d'une nouvelle souche qui est épidémique, c'est la souche W et la souche C. Donc au niveau de Niamey, nous avons vu l'évolution des cas qui fait en sorte qu'il nous faut agir en termes de vaccination, en termes de traitement, de prise en charge des malades. Donc aujourd'hui, si le gouvernement décide de fermer les établissements scolaires, c'est pour permettre d'abord de prévenir et de préparer aussi une riposte. Nous allons organiser des vaccinations et on va commencer au niveau des écoles primaires.
Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti.
Le Togo tiendra samedi une élection présidentielle. Le président sortant Fornia Singbe brigue un troisième mandat face à 4 concurrents, dont Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Les soldats ont voté par anticipation aujourd'hui. Amnesty International dénonce les agissements de l'armée, accusant les militaires d'avoir tiré à balles réelles sur les manifestants. Idriss Fall a joint François Patuel, chercheur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest.
On est très préoccupé par l'utilisation excessive de la force par la gendarmerie et l'armée au Togo. L'événement auquel je fais référence, c'est une manifestation qui s'est tenue à Glii, à une centaine de kilomètres de Lomé, le 25 mars dernier. Amnesty International a pu obtenir de nombreux témoignages de personnes qui étaient présentes, de blessés. On a également des photos, des blessures qu'ils ont subies pendant cette répression. À savoir, la gendarmerie et l'armée ont utilisé des fusils à pompe et des fusils automatiques pour tirer sur une foule, blessant une trentaine de personnes, dont un enfant d'une dizaine d'années et une femme de 75 ans.
Mais au Togo, généralement, le pire arrive après proclamation des résultats.
La question de l'utilisation excessive de la force au Togo est en effet un problème depuis plusieurs années. On le mentionne très régulièrement, malheureusement, dans nos rapports. Et c'est justement à l'approche de ces élections présidentielles que l'État togolais doit réagir et donner un message clair que cette pratique est intolérable et que les gens auront la possibilité de manifester s'ils le désirent, soit avant, soit pendant, soit après les élections.
Pour le moment, la communauté internationale, on a l'impression qu'on attend le médecin après la mort.
En tout cas, oui, ce qu'il faut, c'est absolument qu'il y ait un message clair qui soit envoyé aux autorités pour qu'elles envoient ce message elles-mêmes à leur population, pour rassurer la population et indiquer que le droit à la liberté de manifestation sera respecté au Togo. Mais il ne s'agit pas uniquement des questions d'utilisation excessive de la force, c'est aussi les mauvais traitements et les arrestations arbitraires. Lors de cette manifestation du 25 mars, les forces de la gendarmerie et de l'armée, après avoir tiré à balles réelles sur la foule, ont poursuivi les personnes qui étaient présentes dans des maisons, dans des commerces. Ils ont été battus tout le long de leur transfert jusqu'à la prison d'Atapamé. Et une fois en détention, on leur a refusé l'accès à un avocat et l'accès à des traitements médicaux. Et suite à ce refus d'avoir accès à des traitements médicaux, il y a un homme qui est décédé le lendemain de sa libération, le matin du 17 avril.
On écoutait François Patuel, chercheur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
En République centrafricaine, le Forum intercentrafricain de réconciliation nationale de Bangui se tiendra du 4 mai au 11 mai. C'est ce qui ressort d'un décret publié aujourd'hui par la présidence de transition. Ce report intervient en raison du calendrier du médiateur international de la crise centrafricaine, le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui ne pourra pas assister à ses assises à la date initiale.
Par ailleurs, le mouvement anti-Balaka dément toute part participation aux enlèvements des bergers musulmans de l'ethnie Peul, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Selon le porte-parole des anti-Balaka, Igor Béranger Lamaka, ces actes sont attribués à des bandits de grand chemin. Il maintient par ailleurs les revendications des anti-Balaka quant à leur participation au forum de Bangui.
Vous parlez des anti-Balaka, mais de quel anti-Balaka? Aujourd'hui, anti-Balaka n'existe pas. Depuis l'accord de cessation des hostilités qu'on a signé à Brazzaville, nous, on a respecté ça. Il n'y a pas eu de combat entre des anti-Balaka et anti-Balaka contre nos frères de l'ex-Séléka. Aujourd'hui, il n'y a même pas eu de bruit ni de combat entre nous. Je me pose la question de quel anti-Balaka qui est au front, qui est en train de se battre pour kidnapper les Peuls. Moi, je me pose la question, c'est des bandits des grands chemins, c'est des voyous. Tu vois, aujourd'hui, quand un centrafricain fait quelque chose, on dit que c'est un ex-anti-Balaka. Quand c'est un musulman, on dit que c'est un Séléka. Nous nous posons des questions de quel anti-Balaka. On le dit là, moi-même, je me pose la question, je ne comprends pas.
Igor Béranger Lamaka, autre question. Maintenez-vous vos revendications quant à votre participation au forum de Bangui à venir?
Oui, certainement, oui, parce que c'est ce que nous avons déposé sur la table de la négociation lorsqu'on a discuté avec le gouvernement et la communauté internationale représentée par le G8, où il y a eu la présence de l'ambassadeur de France et celui des États-Unis. Et beaucoup d'autres aussi étaient là ce jour, dans la salle, au niveau de la primature.
Igor Béranger Lamaka, porte-parole des anti-Balaka, au micro de Félix Yepassis Zembrou, qui a également joint par téléphone Abdoulaye Hissène, vice-président du groupe armé RPRC, une branche de l'ex-coalition Séléka.
En ce qui concerne le Kouta, nous avons crié haut et fort. Ce n'est pas seulement ex-coalition Séléka. La revendication, ça résume dans les deux mouvements. Vous savez que les mouvements armés majeurs de ce pays, les acteurs de cette crise, il n'y a que deux. Anti-Balaka et ex-coalition Séléka. Aujourd'hui, si ces deux-là ne participent pas massivement, il n'y aura pas de solution. Et donc, nous avons 680 participants pour le forum. Il n'y a que 30 participants pour les deux mouvements. ex-coalition Sénégalaise 15 et Anti-Balaka 15, c'est inacceptable. Donc nous avons dit non à cela. Nous avons demandé au gouvernement de revoir les listes et d'augmenter le quota pour l'Anti-Balaka et pour l'ex-coalition Sénégalaise pour que tous ceux qui sont dans l'arrière-pays, dans l'intérêt des pays, participent dans les forums pour trouver des solutions de sortie de crise définitive.
C'était Abdoulaye Sène de l'ex-coalition Séléka en Centrafrique.
Cette semaine, Washington Forum vous emmène en Afrique du Sud. Depuis plus de deux semaines, le pays connaît un nouvel épisode de violence xénophobe. Comment expliquer ce sentiment de haine envers les immigrés? Pourquoi le gouvernement sud-africain a-t-il du mal à contenir la situation? Nous aborderons aussi un autre volet de la thématique de l'immigration, la Méditerranée, devenue un véritable cimetière maritime qui laisse l'Europe perplexe. Que faut-il faire pour y remédier? Qu'est-ce qui pousse ces malheureux exilés entre les mains de véritables mafias sans scrupules? Retrouvez-moi Salwa Jafari pour un nouveau Washington Forum ce jeudi 23 avril à 19h, temps universel.
Les dirigeants de nombreux pays participent au sommet Asie-Afrique à Jakarta au 60e anniversaire de la conférence de Bandung qui a jeté les bases du mouvement des non-alignés en 1955. À l'ouverture aujourd'hui, le président chinois Xi Jinping a vanté l'ambitieuse stratégie de son pays en vue de stimuler les économies des deux régions. Les précisions de Lionel Gaïma.
Beijing supprimera en grande partie les droits de douane sur les importations en provenance de nombreux pays en développement, a annoncé le leader chinois. D'ici la fin de l'année, la Chine va étendre le traitement tarifaire de 0% sur 97% des produits en provenance des pays les moins développés qui ont des liens diplomatiques avec la Chine. Et la Chine continuera de fournir une assistance aux pays en développement sans conditions politiques. Le président Xi Jinping a par ailleurs exhorté les pays riches à octroyer sans condition leur aide aux pays en développement. Une réponse aux accusations selon lesquelles la Chine est peu soucieuse des questions de droits humains. Pour sa part, le président indonésien Joko Widodo a estimé qu'il était impératif de construire une nouvelle économie plus ouverte à celle de pays émergents. Il a appelé à un nouvel ordre économique qui ne serait pas dominé par les institutions sous contrôle des États-Unis et de la Chine. Quant au co-président de la conférence, le président zimbabwéen Robert Mugabe, il a appelé à la réforme des Nations Unies, en particulier à l'élimination du droit de veto du Conseil de sécurité. Pour y parvenir, il sera essentiel de renforcer notre unité en continuant à lutter pour une organisation des Nations Unies qui reconnaisse tous ses partenaires comme étant égaux. La plupart des autres dirigeants se sont concentrés sur le commerce entre les pays en développement, plus d'investissements dans les infrastructures comme les routes, l'électricité et les ports. Le roi Abdallah II de Jordanie a appelé à la solidarité dans la lutte contre le terrorisme et les groupes islamistes. Le président iranien Hassan Rouhani a condamné en particulier les rebelles sunnites qui combattent en Irak et en Syrie. Et il a fait allusion à l'Arabie saoudite lorsqu'il a condamné, je le cite, les acteurs régionaux et internationaux qui soutiennent ces extrémistes.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui à la une ce soir.
République centrafricaine, le gouvernement annonce le report du forum intercentrafricain de réconciliation nationale.
Ce forum doit maintenant débuter le 4 mai. Sénégal, le président Macky Sall appelle à la fin de la grève des enseignants du primaire et du secondaire.
Au Niger, l'État annonce la fermeture temporaire de toutes les écoles de Niamey.
C'est à cause d'une épidémie de méningite. Déploiement de l'armée sud-africaine pour lutter contre les violences xénophobes.
Et au Yémen, les rebelles chiites demandent l'arrêt total des frappes aériennes alors que les protagonistes envisagent la tenue de négociations de paix.
Cette édition touche à sa fin, Nathalie.
Et oui, à la mise en onde, c'était Lionel Gaïma. Micha Dubinsky était à la console, la présentation. Ben, c'était moi-même, Nathalie Barge et Chérubin Dorsil, vous-même.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook. Nous sommes votre compagnie 24 sur 24, en ligne. Notre site internet, bien sûr, c'est voaafrique.com. Ciao.
Très bonne soirée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.